Bonjour à tous, bienvenue, bon appétit, il est midi et demi.
Europe Midi Week-end.
Thierry Dagiral.
30 minutes d'information jusqu'à 13h et plusieurs dossiers que l'on va développer ensemble en ce dimanche 22 mai. Le retour de la fête du tennis Porte d'Auteuil à Paris. Les premiers échanges ont débuté il y a 1h30. Maintenant, on va retrouver Jean-François Pérez sur place. Dans un instant, hommes-femmes, qui sont les favoris? Cédric Pioline sera notre premier invité dans ce journal. Il reste Mbappé à re-signer pour 3 ans à Paris. La joie des supporters parisiens et la presse espagnole qui le torpille ce matin. Nous serons en direct de Madrid. Conséquence, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a été limogé. Les dessous de cette opération Mbappé avec l'ex-joueur parisien et consultant européen Jimmy Algerino. Après la séquence com, elle rentre dans le dur. Pouvoir d'achat, transition écologique, santé et école. Les priorités d'Elisabeth Borne, interview ce matin dans le JDD avant le premier conseil des ministres demain. À suivre notre dézoom politique du dimanche midi avec aujourd'hui le politologue Jérôme Sainte-Marie. Et puis nous reviendrons sur cette polémique qui enfle. Elle concerne le nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad. Mais avant de développer ses titres, la tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, 21 départements en alerte orange orage, de l'Indre-et-Loire au Rhône jusqu'aux Landes, à partir de 15h cet après-midi jusqu'au moins 3h du matin. D'ici là, le thermomètre s'envole jusqu'à 37 sur le Tarn. Des Pays de la Loire à la Franche-Comté, il fera 27 à 30. 32 sur le Berry. Au nord, les maximales restent comprises entre 22 et 26. 26 notamment en région parisienne, à Roland-Garros.
Météo complète juste avant 13h.
Europe 1.
Roland-Garros 2022, balle neuve. C'est parti depuis 11h ce matin, retour à la normale après 2 ans de pandémie. C'est complet pour la quinzaine, le public est là et ravi.
C'est un rêve qui se réalise et je suis très contente d'être ici.
C'est très sympathique, il y a une bonne ambiance. Visiblement, il y a beaucoup de choses qui sont réouvertes cette année qui n'étaient pas les années précédentes, donc c'est bien.
La dernière fois que je suis venu, c'était il y a 8 ans. Beaucoup de plaisir à retrouver ce site et cette ambiance. On vit le live, on vit la chaleur, on vit la foule, on vit... C'est vraiment du concret.
C'est notre première et on en est fiers. Hein. Franchement, c'est magnifique, c'est féerique.
Moi, j'aime bien Djoko, mais le nouveau qui arrive, j'avoue que... C'est un grand espoir.
Alcaraz ?
Ah ouais, j'ai carrément craqué sur lui. Enfin, je veux dire, au niveau du tennis, hein, attention. Ça dit en passant, c'est un bel homme, mais bon, il a que 19 ans. Hein.
Voilà, propos recueillis par Arthur Pereira. Toutes les heures, vous le savez, hein, dans les flashs et rendez-vous info, vous allez suivre tous les matchs. On vous retrouve, Porte d'Auteuil, Jean-François Pérez. On joue depuis 11h avec pas moins de 6 Français et des têtes de série pour cette première journée. Hein.
Ah oui, la principale dans le tableau féminin, en tout cas, c'est sur le central que ça se passe. C'est en ce moment, c'est 11 Jabeur, la Tunisienne, tête de série numéro 6 et vainqueur du tournoi de Madrid il y a quelques jours. Hein, c'est la première joueuse nord-africaine à atteindre ce niveau. Eh bien, elle est opposée à la polonaise Magda Linete. Elle a gagné le premier set, 11 Jabeur 6-3, 6-5 pour elle également dans la deuxième manche. Mais c'est serré, elle est revenue, Linette. Elle avait un petit service de retard qu'elle a réussi à rattraper. Donc 6-5, il y a encore un petit peu de suspense ici, peut-être un tie-break à venir. Une Française d'ores et déjà au tapis, il s'agit d'Harmony Tan, battue par logiquement hein, par la Colombienne Osorio sur le score de 6-4, 6-3. Et puis on suit également dans le tableau masculin le parcours d'un ancien finaliste ici, Dominic Thiem, l'Autrichien qui est mené d'ores et déjà 2-7-0. Il est blessé, il a eu pas mal de problèmes ces derniers temps, donc ce n'est pas étonnant, mais c'est quand même un petit peu triste pour cet ancien finaliste de Roland-Garros.
Allez, prochain point à 13h, le chef des sports d'Europe 1, Jean-François Pérez, depuis Roland-Garros. Et bonjour Cédric Pioline.
Bonjour.
Ancien joueur et consultant européen, les favoris côté homme cette année, c'est qui? Nadal, Djoko, et puis la star montante, Alcaraz.
Mais je crois que vous avez un petit peu tout dit, effectivement, avec Novak Djokovic, numéro un mondial, Nadal qui on ne présente plus, et puis Alcaraz qui fait son trou et qui commence à avoir de la notoriété, une notoriété très forte parce que c'est une météorite, il est déjà 6e mondial. Il arrive étrangement avec beaucoup de pression ici parce que il est pour son 2e Roland-Garros d'ores et déjà dans les favoris.
Chez les femmes, Cédric?
Alors chez les femmes, c'est évidemment beaucoup plus ouvert parce que il n'y a pas beaucoup de hiérarchie, même si il y a peut-être la numéro 1 mondiale, hein, la polonaise Swiatek, qui a déjà gagné ici en 2019, qui se détache un petit peu du lot. Mais comme souvent dans le tableau féminin, il faudra s'attendre à quelques surprises.
Côté français, Cédric, Gilles Simon et Joe Wilfried Tsonga vont affronter des têtes de série. Tirage pas facile pour les Français.
Non, tirage pas facile, d'autant plus que suite au forfait de Gaël Monfils, on n'a aucun Français tête de série. Les résultats de pré-Roland-Garros n'ont pas été très convaincants, je dirais, de la part des Français. Donc, il faut espérer qu'on ait, d'ailleurs, dans les deux tableaux, féminin et masculin, des représentants tricolores. Au moins en huitième de finale, c'est-à-dire en deuxième semaine de Roland-Garros.
Cédric, on vous retrouve bien sûr tous les midis dans Europe Midi et puis le soir, 19h40 jusqu'à 20h dans Service Pioline. Ça commence dès ce soir. Vous êtes prêt pour cette quinzaine ?
Ah, je suis très excité et puis je vous avoue que je suis dans le stade de Roland-Garros et ça fait bien plaisir de voir ce stade plein avec de la vie, avec les gens qui viennent, qui sont excités. Le temps est idéal pour jouer au tennis, pas de soleil, pas de vent, une température vers 22-23 degrés. Donc ça fait beaucoup de bien et j'espère que ça sera une superbe édition 2022.
Merci à vous Cédric Pioline. Notez également que demain, la matinale de Dimitri Pavlenko sera en direct du cours central. À ne pas rater, ce sera bien sûr dès 6h30.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
12h37, c'est l'autre grosse actu sport de ce dimanche. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Eh bien non, non, il reste. Kylian Mbappé a re-signé avec le PSG pour 3 ans et c'était la fête hier soir au Parc des Princes. Écoutez la joie des supporters.
Comme ça qui évolue sur le terrain, ça n'a pas de prix.
Perdre un joueur comme Mbappé actuellement, c'est inimaginable. Jeune, prometteur, talentueux comme lui, il vient de chez nous. Tous les petits quartiers, on joue au foot, on se voit à travers lui et le voir rester à Paris, ça fait un bien fou.
La Ligue des Champions, quand même, faut qu'on la gagne à force. Il n'y a que lui qui peut nous l'emmener. Depuis la saison, il fait tout dans l'équipe, c'est l'atout majeur de l'équipe.
Enfin la réponse.
On va pouvoir dormir tranquille.
Quand il a levé le maillot Mbappé 2025, il y avait le soulagement total. J'ai des frissons. Vraiment, je suis heureux.
Voilà les supporters parisiens avec Marion Gauthier. Bonjour Jimmy Algerino.
Oui, bonjour à tous.
Ancien joueur du PSG, consultant européen. Qu'est-ce qui a joué en faveur de Paris alors dans la balance ?
On va pas rentrer dans les détails, mais je pense que ce qui a vraiment penché, c'est que Kylian veut marquer son histoire à lui, de joueur professionnel, de grand joueur professionnel. Et je pense que la meilleure façon pour lui de l'écrire, c'était au Paris Saint-Germain, et pas aller au Real de Madrid pour écrire l'histoire du Real de Madrid.
Mmh. Il y a de l'affect également, il y a sa famille bien sûr à Paris, ça a joué également ?
Oui, bon après la famille, vous savez, dans ce genre de cas, ça peut voyager, ça voyage très souvent. Non, mais je pense qu'il est vraiment attaché au club. Et puis, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il avait promis de ne pas partir libre par rapport au Paris Saint-Germain, son président. Donc, il a tenu parole. Et ça, on peut féliciter ne serait-ce que le joueur et aussi les parents qui ont tenu bon, qui ont magnifiquement géré et organisé cette discussion pour à la fin avoir le plaisir et l'honneur d'avoir Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain la saison prochaine.
Jimmy, on connaît le contrat, on connaît le montant ou pas ? Ça chuchote ou pas ?
Après, la maman l'a plus ou moins dit. Je pense que les propositions étaient plus ou moins les mêmes, que ce soit au Real et à Paris. Après, il y avait une histoire de droit d'image, mais bon, ça s'arrange assez rapidement quand on est à ce niveau-là. Mais bon, de toute façon, ça s'accumine bien au-dessus des montants sans doute de Neymar, voire peut-être de Messi ou Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, je pense et j'en suis sûr que c'est pas une histoire d'argent, parce que de toute façon, de l'argent, il va en gagner, mais c'était surtout son projet personnel et marquer l'histoire du football et déjà du football français.
Restez avec nous, Jimmy. On va aller à Madrid retrouver Zoé Palier sur place. Zoé, Mbappé n'ira donc pas au Real et il se fait détruire ce matin dans la presse espagnole. Hein.
Oui, les mots sont très acerbes, à commencer par cette une cinglante du quotidien sportif de référence, Marca. Il faut beaucoup de classe pour jouer au Real, tacle le journal sous une photo d'Mbappé brandissant son maillot du PSG hier soir. C'est lui le perdant, assène le quotidien AS. Bien résumé, sourit un supporter du Real, croisé ce matin dans un kiosque où les piles de journaux fondent à vue d'œil. Et cette idée que Mbappé ne mérite pas le Real est reprise par de nombreux commentateurs sur les plateaux avec beaucoup de passion. Vous allez l'entendre avec cet intervenant de l'émission Chiringuito.
C'est nul.
Qu'il reste à Paris, voir le Real remporter la 14e, sans lui, chez lui. Car sur le terrain, il y a Benzema, Modric, Vinicius, et lui, il sera dans les loges. Nous, on en aura 14.
Mais sin una Champions, nosotros 14.
Et dans les éditos, le mot « trahison » revient comme un refrain ce matin, formule piquante d'un rédacteur en chef contrarié. Mbappé a montré qu'entre son porte-monnaie et son rêve d'enfant, il préfère le porte-monnaie. Un autre va même jusqu'à philosopher. Kylian, tu nous montres là toute la faiblesse de la condition humaine.
Voilà, c'est dit. Merci Zoé. Zoé Palier à Madrid pour Europe 1. Jimmy Algerino, la Liga va porter plainte contre le PSG. Bon, ce ne sera pas à Madrid qu'il pourra aller Mbappé dans 3 ans.
Vous savez, dans le football, tout peut changer. Hein. Tout est possible. C'est comme sur un match. Tout est possible. On peut gagner et perdre à la fin, ou perdre et gagner. Donc ça, non, rien n'est acquis. Après, je pense que tout simplement, bon, les Espagnols l'ont mauvaise et bon, ça peut se comprendre. Mais il faut qu'ils comprennent que Kylian Mbappé et sans doute la nouvelle génération vont avoir envie vraiment d'écrire leur histoire, de créer leur histoire. Là, on est dans un nouveau monde, entre guillemets, et pas venir voilà, comme un joueur supplémentaire écrire l'histoire du Real de Madrid, gagner la 15e et ainsi de suite. Donc ça, peut-être que les dirigeants du Paris Saint-Germain l'ont compris et pas les dirigeants du Real de Madrid.
J'ai encore plein de questions à vous poser. Réponse rapide, est-ce que c'est le premier étage de la fusée, ce qui est en train de se passer au PSG, Mbappé qui reste, Leonardo, le directeur sportif limogé dès hier soir? C'est que le début, on parle de Luis Campos pour le remplacer, Leonardo?
Oui, c'est que le début, parce qu'il était important de faire une refonte un petit peu de l'organigramme. Donc, bon, Léo, malheureusement, voilà, part aussi. Après, derrière, le quid du coach, est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'il va partir lui aussi?
Pochettino,
ouais, ouais. Tout à fait, ouais.
On chuchote, on parle beaucoup de l'arrivée de Zinedine Zidane. Vous y croyez, vous, ou pas?
Moi, je croyais pas trop à la signature de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain qu'il a signé. Ouais. Donc, je vais dire que j'y crois pas trop. Comme ça pourra permettre peut-être à Zidane de venir et signer au Paris Saint-Germain.
Bon, en tout cas, on le comprend bien. C'est que le début au PSG d'un gros remaniement que l'on va bien sûr suivre sur Europe 1. Merci à vous, Jimmy Algerino.
Merci beaucoup. Bon dimanche.
Merci également. Hier soir, c'était aussi le clap de fin de la saison de Ligue 1 et l'OM jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Victoire 4-0 face à Strasbourg. Et c'est un vrai soulagement pour les supporters marseillais. Stéphane Burgat.
Un vent de folie sur la pelouse, une scène surréaliste. Le coup de sifflet final n'a pas encore retenti. Que les joueurs marseillais exultent, Matteo Guendouzi le premier.
Honnêtement, je pensais que le match était fini. Avec un but comme ça à la 94e minute, je pense que c'est le plus beau souvenir que beaucoup de joueurs puissent avoir de leur carrière.
Les Olympiens comme Valentin Rongier qui ont compris tout simplement en voyant les tribunes s'embraser.
Surtout l'explosion du stade. Je vous avoue que mes nerfs ont un peu lâché.
Un scénario que les supporters ne sont pas prêts d'oublier.
C'était ce soir-là qu'il fallait être au stade. Ah ben, jusqu'au bout, on a tremblé.
Une gratitude sincère envers les Lensois dont l'hymne Les Corons a retenti dans le stade Vélodrome.
Ah, mais moi, je la chanterai toute la nuit s'il faut. Ah, là, on est heureux, mon ami. On est heureux, franchement. Oh, les Lensois, on vous aime. Merci, les Lensois.
Et un ascenseur émotionnel qui, au final, résume parfaitement la saison vécue par les Olympiens. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Voilà, notez enfin que Bordeaux et Metz sont relégués en Ligue 2. Allez, restez avec nous dans un instant. La politique avec Elisabeth Borne dans le dur dès demain. Et une polémique qui concerne le nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad. Ce sera notre dézoom politique avec le politologue Jérôme Sainte-Marie. Et puis, conséquence des prix qui grimpent, les applications pour dénicher des bons plans cartonnent. Bon appétit à tous. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi Weekend.
Thierry Dagiral.
12h48, la suite de votre édition de la mi-journée sur Europe 1. Attention, ça se corse. Il y a eu la séquence communication tout le week-end. Elisabeth Borne était en campagne dans le Calvados. Eh bien, c'est demain que tout commence. Elle s'explique ce matin dans le JDD. Demain, premier conseil des ministres, première rencontre avec les syndicats et premier dossier à traiter, Johan Tritz.
Oui, et tout en haut de la pile, le sujet du pouvoir d'achat. La nouvelle première ministre souhaite prolonger les mesures du dernier quinquennat. Le bouclier tarifaire, la remise sur les prix du carburant ou encore la mise en place d'un chèque alimentaire pour les revenus les plus modestes. Ce plan inflation devrait être dévoilé juste avant les législatives. Mais dedans, il n'y aura pas de gel des loyers comme cela a été envisagé. Une fausse bonne idée pour Elisabeth Borne.
Autre grande priorité, l'écologie.
Ouais, elle souhaite mettre en place un premier projet, accompagner les mobilités propres avec notamment la possibilité de louer une voiture électrique pour 100 euros par mois. Promesse d'Emmanuel Macron, mais aussi dans un deuxième temps, sortir la France de l'énergie fossile avec une priorité donnée sur le renouvelable et le nucléaire.
Et puis il y a la grande réforme des retraites, dossier très délicat bien sûr.
Pour la Première Ministre, c'est pourtant une réforme nécessaire, indispensable pour éviter une hausse des impôts, une augmentation de la dette, mais il y a un gros point de discorde, le départ à la retraite fixé à 65 ans, mais ce n'est pas un totem pour Elisabeth Borne, comprenez, négociable, même si ce n'est pas forcément l'avis de Jean-Pierre Mercier, porte-parole de Lutte Ouvrière.
Nous sommes en campagne électorale pour les législatives, donc il est de bon ton pour la Première Ministre de faire semblant de discuter. Si on doit attendre quelque chose d'Elisabeth Borne, c'est des coups, des attaques. Je dirais, voilà, nous on va se battre, on va s'organiser, on va descendre dans la rue, on va faire grève, parce que c'est la seule manière de vous faire plier.
Des dialogues devraient pourtant s'ouvrir avec les partenaires sociaux juste après les législatives. Je ne mentirai pas aux Français, a-t-elle promis pour conclure.
Merci Johan. Johan Tritz, place à notre dézoom politique du dimanche midi. Et ce dimanche avec Jérôme Sainte-Marie, politologue et président de l'Institut Polling Vox, bonjour.
Bonjour.
D'abord cette polémique qui enfle, le nouveau ministre des Solidarités Damien Abad qui vient des LR est accusé par deux femmes de viol en 2010 et 2011, révélation de Mediapart hier et réaction à l'instant d'Elisabeth Borne, écoutez.
Bien évidemment, je n'étais pas au courant, je vais être très clair. Moi, j'ai découvert l'article de Mediapart hier. J'ai pas plus d'éléments que le fait que l'affaire a été classée sans suite. Je peux vous assurer que s'il y a des nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de sa décision.
Jérôme Sainte-Marie, il faudra bien sûr voir si ces accusations sont fondées, mais il faut aussi ajouter que dans un communiqué, Damien Abad vient de démentir formellement. Si ça s'avère vrai, ça part mal.
Oui, enfin, ce qui part mal, si vous voulez, c'est le fonctionnement de la démocratie en France à travers cette affaire. Puisque si tout homme politique, ou toute femme politique d'ailleurs, peut être suspendu après des accusations, même pour une plainte classée sans suite, à ce moment-là, ça rend en fait le fonctionnement des institutions impossible. Je pense que la classe politique, là, paye une nouvelle fois sa lâcheté, ce qui a consisté à une époque à dire toute personne mise en examen doit démissionner. Vous savez, je crois que c'était la jurisprudence Balladur, on appelait ça comme ça. Être mise en examen n'est pas être reconnu coupable. Et là, si vous voulez, par capillarité, de fil en aiguille, en quelque sorte, là, c'est des accusations qui ont été classées sans suite, qui empêcheraient quelqu'un de devenir ministre. Alors, je n'ai pas de relation particulière avec M. Abad, que je connais par ailleurs, mais c'est, si vous voulez, ce n'est pas la question de la personne. C'est que là, on est véritablement dans une situation qui rend les choses totalement ingérables, en fait. Et surtout, il y a non seulement... ça va même plus loin que la présomption d'innocence. Je connais absolument pas l'affaire, mais si, effectivement, d'un ou un cas, dans le cas précis où l'affaire aurait été classée sans suite, si toute affaire, si vous voulez, classée sans suite, vaut condamnation perpétuelle, à ce moment-là, c'est quelque chose qui touchera, d'ailleurs, tous les partis politiques, toutes les majorités, etc., qui ne fera aucun bien, à mon avis, et qui fera beaucoup de mal.
Jérôme Sainte-Marie, revenons maintenant sur les dossiers qui attendent la Première Ministre. Ça va être dur avec les syndicats. Certains lui reprochent d'écouter sans entendre. Il peut y avoir un côté finalement Juppé, droit dans ses bottes.
Il y a une contrainte, si vous voulez, pour la première ministre, puisqu'elle veut qu'on l'appelle comme cela, qu'elle s'appuie sur les 28% d'électeurs suffrages exprimés plutôt se sont portés sur Emmanuel Macron au premier tour. 28%, c'est 4 points de plus qu'il y a 5 ans, et ces 28%, ce qui est quand même considérable, souhaitaient les réformes et notamment la réforme des retraites. La réforme des retraites, plus précisément le passage au départ progressif à une retraite à partir de 65 ans, eh bien cela a été annoncé par le candidat Emmanuel Macron. On ne peut pas dire qu'il ait beaucoup développé son projet durant la campagne, mais ça a été dit, ça a été répété, ça a été assumé. Donc effectivement, Elisabeth Borne n'a pas d'autre choix, en réalité, y compris pour respecter le suffrage universel, que d'aller de défendre cette option-là. Ça peut la mettre, effectivement, la confronter aux syndicats. sincèrement, ce n'est pas le plus dramatique aujourd'hui. Ils sont quand même très affaiblis. Ils se sont encore davantage affaiblis, probablement, ces syndicats de salariés, en appelant à voter pour Emmanuel Macron, alors même qu'il avait annoncé qu'il ferait une réforme à 35 ans. Ça les déstabilise un petit peu, tout de même. Mais ce qui peut effectivement se produire, c'est que dans les quelques semaines qui nous séparent des élections législatives, ce sujet des retraites monte au niveau médiatique, et qu'à ce moment-là, il y ait davantage de voix qui se portent sur les candidats de gauche ou sur les candidats du Rassemblement national, puisque c'est les deux forces qui y sont opposées.
Le dézoom politique de ce dimanche avec Jérôme Sainte-Marie de Pollingvox. Merci à vous.
Merci. Au revoir.
On parlait pouvoir d'achat, et justement, vous êtes de plus en plus nombreux à dénicher des alternatives pour dépenser moins. Et parmi les bons plans plébiscités, il y a les sites internet qui chassent les promotions, Noa Moussa.
Oui, et parmi les bons plans pour payer ses courses moins chères, il y a les sites qui recensent toutes les promotions. Leur nombre d'utilisateurs a grimpé en flèche ces dernières semaines, comme le constate Laurent Anselme, fondateur d'anti-crise.fr.
Les gens viennent naturellement par le bouche à oreille. On avait à peu près 1 800 000 visiteurs au début de l'année. Le mois dernier, on avait passé le cap des 2 millions. On a des gens qui viennent régulièrement consulter le site de plus en plus.
Et puis, il y a aussi le succès des applications anti-gaspi qui séduisent de plus en plus de consommateurs. Sarah Chouraki est directrice générale de Too Good To Go France, qui propose des produits frais à prix cassé près de chez vous.
Récemment, on a vu en effet qu'on avait une augmentation de 35% à peu près des téléchargements. On associe vraiment ça au pouvoir d'achat. On le voit aussi dans les témoignages qu'on reçoit de nos utilisateurs. Ils nous remercient vraiment d'avoir en fait accès à de la nourriture de qualité à petit prix dans un contexte où en effet le pouvoir d'achat, ça concerne une grosse majorité des Français.
Des applications que les consommateurs utilisent aussi plus régulièrement en se connectant en moyenne une fois par semaine contre une à deux fois par mois l'an dernier.
Moussa.
Europe Midi Week-end.
Thierry Dagiral.
Attention, si vous êtes francilien, grève dans les transports en commun dès demain et pour trois jours. Cela concerne uniquement les bus et les tramways. Prévoyez trois tramways sur cinq et deux bus sur trois aux heures de pointe. C'est demain que le nouvel archevêque de Paris, Laurent Ulrich, prendra officiellement ses fonctions. Il a été nommé par le pape François il y a un mois. La messe d'accueil aura lieu en l'église Saint-Sulpice à Paris. À Lyon, cet après-midi, c'est à 15h qu'aura lieu la messe de béatification de Pauline Jaricot. 10 000 personnes sont attendues. Pauline Jaricot a vécu au 19e siècle. Elle est considérée comme la mère Teresa de l'époque. Mais ce qui a rendu cette béatification possible, c'est un miracle survenu à Lyon en 2012. Récit de ce miracle avec notre correspondant à Lyon, Jean-Luc Boujon.
C'est en mangeant un aliment lors d'un repas que la petite Méline, 3 ans, s'étouffe suite à une fausse route. Malgré l'intervention des secours, son état s'aggrave rapidement et elle tombe dans un coma profond. Les médecins jugent alors son état désespéré, raconte Emmanuel Tran, son papa.
Il n'y a plus d'onde cérébrale et dans ce schéma-là, la certitude c'est que le patient décède. Il n'y a pas d'évolution possible favorable. Les médecins nous ont convoqués en nous expliquant que Méline allait mourir dans les prochains jours.
Une amie leur propose alors de dire une neuvaine à l'intention de Pauline Jaricot, en fait une série de prières, 9 jours de suite pour sauver Méline. Quelques jours plus tard, la petite fille revient à la vie.
On est stupéfait, on ne comprend pas, quoi. Très rapidement, elle commence à avoir des comportements musculaires vraiment étonnants. Même les médecins trouvaient ça bizarre.
Une guérison inexpliquée qui s'apparente à un miracle, explique Emmanuel Tran.
Il faut au moins 5 médecins sur 7 qui qualifient la récupération non scientifique. À partir du moment où personne n'a d'explication, ça devient un miracle.
Néanmoins, il faudra une instruction longue de 6 ans faite par l'Église avant que le pape François ne reconnaisse le miracle en 2020. Aujourd'hui, Méline est une adolescente de 13 ans en pleine santé. Elle sera évidemment présente cet après-midi pour la messe de béatification de Pauline Jaricot. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Alors, il nous reste à voir le temps, Valérie Darmont, avec, attention, à 21 départements en alerte orange orage.
Effectivement, Thierry, hein, tous les départements allant des Landes, au Cher, au Rhône, au Cantal, au Lot et Garonne, pour un début d'événement aux alentours de 15h jusqu'au moins 3h du matin. La deuxième salve orageuse va démarrer véritablement en soirée. Sur la moitié sud, l'ambiance est en train de devenir très lourde. Actuellement, on a des averses orageuses qui commencent par se déclencher sur l'Auvergne et le nord de Rhône-Alpes. Donc, cette autre salve orageuse arrive ensuite en fin de journée sur l'Aquitaine pour remonter vers le Périgord, le Limousin, le Quercy, l'Est du Poitou, les Charentes. Ces orages qui sont parfois violents avec de fortes rafales jusqu'à 110 km/h et de la grêle.
Merci Valérie Darmon. Dans un instant, Isabelle Morizet qui reçoit l'auteur et réalisatrice Amanda Steers. Puis à 14h, La Voix est libre. Nicolas Carreau recevra lui la comédienne Isabelle Carré. Toutes les dernières informations, c'est dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi Week-end. Midi 30, 13h.